Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. J'ai une heure chaque midi pour vous montrer que oui, la France bouge et que c'est vous qui êtes les acteurs de ce changement. Ce lundi, c'est la journée mondiale de l'art. Le virtuel et le numérique ne remplacent pas le fusain ou la gouache, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, oui, les Français ont su intégrer tout un tas d'innovations. Elle existe depuis 1994, a fait du recyclage son mantra, Paprec et l'entreprise. Entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez qu'on gère vos abonnements à votre place, histoire de faire baisser la facture. Oui, c'est possible, la solution s'appelle iDeal. C'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, on vous attend comme chaque jour, ici sur Europe 1. Venez partager votre fibre artistique avec nous ce midi, parce que c'est la journée mondiale de l'art, Anissa.
Oui, venez nous dire ce que vous aimez dans l'art. Venez nous dire comment vous imaginez peut-être visiter des musées, des expos. Venez nous parler du futur de l'art sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et au 39-21, on vous écoute. Pour appeler Europe 1, c'est le 39-21, 50 centimes la minute.
Pour accueillir nos invités, à mes côtés, comme chaque jour, elle est là. C'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach, eh bien, c'est Riyad Boulanoir, aujourd'hui fondateur notamment de la méthode Boulanoir. Bonjour Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
On a tous envie d'aller visiter le Louvre ou de découvrir les merveilles que renferment nos musées, mais c'est vrai que la plupart du temps, nous manquons de temps. Résultat, il n'y a que 3 Français sur 10 en moyenne qui ont la possibilité d'aller déambuler au milieu des œuvres. Et si demain ces œuvres pouvaient directement venir à vous? Bonjour Jean Vergès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de UMA. Ça se dit UMA, mais ça s'écrit UMA comme Universal Museum of Art. Et alors votre ambition, je crois que c'est justement de démocratiser ce fameux accès à l'art, c'est bien ça?
Exactement, comme vous l'avez dit, il y a peu de personnes qui se rendent dans les musées, contraintes de temps, contraintes géographiques, contraintes parfois d'éducation, et finalement l'art, eh bien, ça nous parle à tous. Les œuvres ne sont pas toujours accessibles, le discours n'est pas toujours accessible, mais nous on a eu l'ambition de changer ça.
Alors racontez-moi, comment ça démarre cette ambition? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Cette ambition, elle démarre par une constatation, qui est que si jamais aujourd'hui je veux savoir ce que c'est que la Renaissance italienne ou le street art, je me rends sur Internet, c'est le Far West. Il y a la page Wikipédia, il y a Google Images, il y a d'autres choses un petit peu hasardeuses, mais finalement, je ne vais jamais avoir un vrai contenu de qualité qui va me faire vibrer, découvrir et me faire m'émerveiller devant les œuvres.
Donc, vous vous dites, il faut faire quelque chose. Vous n'êtes pas seul dans le projet. Avec un de vos amis, on est en 2017, hein, je crois, vous vous dites, on va créer des visites virtuelles et composer des expositions qu'on ne verrait pas forcément ailleurs, c'est ça?
Exactement. L'idée, c'est qu'on fasse venir à chaque fois un commissaire d'exposition, qu'on fasse intervenir les plus grands spécialistes du secteur pour nous éclairer et nous faire découvrir sur une thématique. Parce que justement, dans l'art, on a besoin d'un petit peu de médiation, on a besoin d'un petit peu de sélection. Et c'est un petit peu ça qu'on a voulu faire. Et on va voir les musées, on va voir les spécialistes et on va leur dire quel est le projet d'exposition, quelles sont les œuvres que vous avez toujours voulu rassembler et que vous n'avez jamais pu faire.
Alors justement, vous parliez du street art, on a fait l'expérience, on est allé sur UMA et on a décidé de se balader justement dans votre exposition. C'est Anissa qui va nous servir de guide dans un instant. Je vais juste rallumer voilà, mon téléphone. Comment ça se passe? On entre dans une première salle et on voyage avec le doigt, par exemple si on est sur le smartphone?
Exactement. Toutes les salles sont créées en réalité virtuelle, dans un décor et une architecture que nous avons imaginé. On place les œuvres qui peuvent être de Tokyo, de New York, de n'importe où, et on évolue en cliquant sur les œuvres pour avoir plus d'informations, en se déplaçant de salle en salle pour évoluer, et puis éventuellement avec un casque de réalité virtuelle si on en a un. Alors là, l'immersion est encore plus complète.
Mais qui vous prête ces œuvres? Comment est-ce que vous arrivez à les rassembler? Il faut que les musées soient d'accord, je suppose.
On travaille beaucoup avec les musées, effectivement, pour justement eh bien, qu'ils nous prêtent leur collection, qu'ils nous fassent confiance, puisqu'ils ont vocation à conquérir des nouveaux publics, ils ont vocation à diffuser leur patrimoine et à les faire rayonner à travers le monde. Donc les musées collaborent très activement et très volontiers à notre projet. Et puis pour des expositions comme le street art, eh bien, on va demander l'accord des artistes. Le musée universel pour tous, tout le temps gratuitement, venez travailler avec nous.
Et alors aujourd'hui, vous en avez combien des expositions comme celle-là dans votre catalogue? Ce ne sont pas des expos éphémères. Hein.
Non, bien sûr, on ne manque pas de place. On est le seul musée qui a un nombre de mètres carrés illimité. Aujourd'hui, on a environ une dizaine d'expositions en ligne et l'objectif, c'est d'en sortir une par semaine dans un futur très proche.
Riyad, Vous connaissiez ?
Non, pas du tout. Moi, je suis impressionné. Puis d'un autre côté, je me demande, est-ce que le fait d'avoir quand même tout accessible au niveau de son smartphone, est-ce qu'on n'enlève pas quelque chose dans la démarche, en fait, où finalement on va avoir tendance à consommer de l'image, à consommer de la visite, sans vraiment prendre le temps. Est-ce que c'est pas quelque chose, est-ce que c'est contrainte du réel finalement qu'on fait disparaître avec le digital ? Est-ce que c'est pas un problème ?
Voir une œuvre d'art en vrai, ce sera toujours mieux. Il y aura un rapport physique à l'œuvre, on verra la lumière, on sera dans un contexte, ce sera toujours mieux. Aujourd'hui, vous passez un nombre d'heures pourtant incalculable à regarder votre feed Instagram et Facebook toute la journée et à consommer des choses parfois un petit peu médiocres. Je vous propose aujourd'hui de rentrer dans une démarche un petit peu différente, celle de l'amélioration personnelle, celle de l'enrichissement et de l'apprentissage et de la découverte.
Parce que vous rajoutez un guide.
Parce que moi j'ai été plein de fois
dans des musées où j'ai pas de guide et je sais pas où aller en fait. Donc je regarde, je vais voir les trucs renommés, mais finalement je sais pas où aller. Et là finalement vous rajoutez un guide, vous remplacez l'expérience, enfin vous profitez de cette expérience numérique pour rajouter un guide virtuel. C'est ça votre différence ?
Exactement, on a énormément de médiation, il y a des notices, il y a des vidéos et puis il y a le guide. Ce qui fait qu'on va consommer une exposition un petit peu comme un podcast, mais avec un décor et une scénographie qui là n'a plus rien à voir parce qu'on y a mis beaucoup plus d'efforts et de travail.
Et puis vous avez la possibilité demain par exemple d'interagir avec les classes. On peut, si on est à Tokyo ou au fin fond de l'Iowa, entrer en contact avec une des expositions qui est sur Ouma.
Bien sûr, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a fait pas mal de tests dans des établissements scolaires. On le développe énormément à partir de la rentrée 2019. Et justement, un certain nombre d'expositions, la Renaissance italienne par exemple, correspond au programme d'histoire en 5e par exemple. Et donc
alors,
les professeurs l'utilisent.
Vous parlez de la Renaissance, c'est intéressant que vous en parliez parce que justement, je crois que vous êtes en train de mettre en place un projet. Et vous pouvez nous le dire aujourd'hui sur Europe 1. Les musées français vous ont tous quasiment prêté des œuvres. Pour ce projet-là.
Exactement. On est en train de créer le projet numérique qui rassemble le plus grand nombre de musées en France. C'est la première fois qu'un si grand nombre de partenaires participent conjointement et activement à un projet commun. Et ce projet, c'est une exposition, en réalité virtuelle toujours, dédiée à l'histoire de l'art de la Renaissance au XXe siècle. Très petite problématique, seulement 500 ans d'histoire. Et justement, on va montrer les chefs-d'œuvre des collections françaises.
2-3 chefs-d'œuvre par musée.
Exactement.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé un autre ou d'autres peut-être musées numériques. Ça existe ?
Alors, il y a un musée numérique qui a ouvert ses portes hier à Brunois et c'est un musée qui permet donc aux visiteurs de consulter sur tablette une large collection d'œuvres d'art. Et c'est une galerie d'art virtuel qui entre dans le cadre des microfolies portées par en ce moment par le ministère de la Culture et coordonnées par la Villette. Donc, offre culturelle gratuite, ça c'est important de le dire. Il y aura même un temps réservé pour les activités scolaires. Ce programme Microfolie, il est partout en France et dans le monde. Et alors évidemment, moi je pense qu'il ne remplacera jamais la visite d'un vrai musée, mais ça peut compenser, surtout ça peut donner envie d'y aller.
Exactement.
Les deux sont liés, c'est important.
Et puis ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, de faire connaissance avec des musées et avec des œuvres. On reste ensemble, on continue à parler art aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous allez voir que l'intelligence artificielle peut aussi s'inviter dans les œuvres d'art. C'est ce que fait Obvious grâce à un collectif d'artistes. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'art. C'est la seule journée mondiale avec la journée de la poésie à concerner la culture. Alors on en parle bien sûr sur Europe 1 et vous nous faites rencontrer Raphaël Duchemin aujourd'hui. Ces Français qui innovent dans le domaine de l'art. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921.
On a tous un artiste qui sommeille en nous, mais peindre un tableau n'est pas donné à tout le monde. Et si demain vous pouviez créer une œuvre grâce à des algorithmes ? Bonjour Gauthier Vernier.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des 3 cofondateurs de ce collectif d'artistes, Obvious. C'est Hugo, je crois, le mathématicien de la bande qui a découvert un jour les Generative Adversarial Networks.
Exactement.
À quoi servent-ils ? Racontez-moi tout.
Alors en fait, c'est des algorithmes qui permettent, à partir d'un très grand nombre d'exemples, de recréer une nouvelle image, donc un nouvel exemple de ces images. et donc qui permettent de créer des choses qui sont entièrement nouvelles et uniques à partir d'un très grand nombre d'exemples.
Par exemple, j'ai envie de peindre un coquelicot, je vais aller chercher dans ma base de données tout un tas d'images de coquelicots et au bout d'un moment, je vais réussir grâce aux algorithmes à créer le coquelicot que j'ai envie d'avoir.
En fait, on va aller chercher un très grand nombre d'images différentes, donc de différents exemples de coquelicots, qui partagent donc les mêmes features, donc qui ont tous des pétales, qui ont tous à peu près la même forme. L'algorithme va au fur et à mesure comprendre comment
il élimine et il
comprend les règles générales du coquelicot.
Il copie le style finalement.
C'est ça, il copie le style et le sujet en fait. Et à partir de ça, il va réussir à créer un nouvel exemple qui est unique et qui est un coquelicot qu'on pourra jamais observer dans la nature en fait.
Mais pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ça? Racontez-moi.
Alors nous, on est tombé sur ces algorithmes un peu par hasard, parce que Hugo fait en fait une veille scientifique sur tout ce qui se passe dans le milieu de la recherche. Et quand on a vu ces algorithmes, on s'est dit qu'ils posaient vraiment des questions intéressantes, donc des questions philosophiques et des questions sociétales, parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même une technologie qui est au cœur de notre évolution et qui va sûrement amener beaucoup de changements. Et donc du coup, nous, ces questions qu'on s'est posées, on a décidé de les poser au monde en créant des œuvres d'art, justement.
Donc ces œuvres, elles sont créées complètement par la machine, ou il y a quand même un artiste au point de départ?
Alors, quand on peut penser que c'est créé entièrement par la machine, parce que la partie de création pure de l'image est faite par la machine. Par contre, quand on se penche un peu sur le process, on se rend compte que c'est l'humain qui sélectionne les données, c'est lui qui code l'algorithme, c'est lui qui fait la sélection finale de l'œuvre. Donc en fait, on peut voir l'intelligence artificielle comme un autre outil qui aide à la création en fait, et qui a pour la première fois sa propre partie créative.
Votre premier projet, c'est une toile intitulée Le Conte de Bellamy. C'est un clin d'œil, hein, justement, Bellamy.
Tout à fait, oui. En fait, la personne qui a inventé ces algorithmes s'appelle Ian Goodfellow. C'est un chercheur...
qui signifie Bellamy.
Voilà, donc qu'on a
français.
Traduit par Bellamy. C'est un clin d'œil à son travail, en fait.
Et alors, tout démarre en 2017. Elle est avec nous, cette toile? C'est celle-ci?
Oui, c'est celle-ci, oui.
Ouais.
Ouais.
Et alors, celle-là, c'est la première, donc qu'est-ce qu'elle a de particulier pour vous?
C'est le premier essai, c'est un peu le moment où on a décidé de se lancer, de sauter dans le grand bain. Et là où elle nous plaît, c'est qu'elle résume vraiment un très grand nombre d'années d'histoire en une seule œuvre, en fait. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a décidé de prendre comme fer de lance, c'est de montrer des périodes historiques entières au travers de l'art et synthétisées au travers de la technologie. En fait.
Et aujourd'hui, il y a Christie's aussi qui vous a contacté, qui a mis une de vos toiles aux enchères. Alors, elle était, je crois, cotée 10 000. Hein,
oui, elle était estimée à 10 000 $.
Ouais. Ouais. Et elle s'est vendue
432 500.
Ouais, acheté par un collectionneur asiatique.
C'est ça, exactement.
Du coup, vous allez aller plus loin, comment et avec quelle ambition?
Alors nous, on veut continuer de faire du coup des parallèles entre la science et l'art. On veut continuer de faire des parallèles entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Et du coup, on va continuer à faire sûrement un très grand nombre de collections dans le futur, j'espère, mais au moins une qui va sortir d'ici juin. Et donc voilà. Et notre but second, c'est aussi de démocratiser un peu l'utilisation de ces algorithmes, montrer qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle à des fins créatives et pas seulement pour de l'optimisation. Et donc voilà, c'est un peu notre message et on va continuer de le porter haut et fort.
Que dit notre coach, Riyad?
Ben, moi je me demande, ça prend combien de temps maintenant avec tous ces ordinateurs pour peindre une toile?
Alors, le processus donc, de sélection des données, de tri des données, il faut coder l'algorithme aussi, tout ça, ça prend environ 4 mois pour un projet, ça nous prend 4 mois à nous. Après, on n'est pas tous les trois à plein temps sur le projet, donc forcément, ça peut aller un petit peu plus vite, mais en général, c'est ce temps-là. Et par contre, en termes de calcul, une fois que l'algorithme est prêt et que les données sont prêtes, ça prend 1 à 3 jours de calcul intensif sur des GPU, donc sur des cartes graphiques qu'on loue.
Elisabeth,
moi, dans tout ce que j'entends, je vois pas l'art là-dedans. Je vois l'aspect financier, mais je ne vois pas où est la part d'art et de créativité.
Bah alors, la part de créativité, elle est assumée et par nous dans la sélection du sujet et par l'algorithme dans la création qui est faite des images. Et la part d'art, en fait, moi je pense que l'art, c'est avant tout de transmettre un message. Et ce message, c'est nous qui le transmettons en fait. Et on peut voir l'algorithme comme un autre outil, comme
un
appareil photo, quelque chose comme ça.
Alors vous parlez d'outils, est-ce qu'on peut imaginer justement que demain vous puissiez venir restaurer en partie des œuvres qui ont été abîmées par le temps. Est-ce que c'est aussi un des développements qu'on peut imaginer à ces algorithmes ?
Oui, tout à fait. Alors, ce ne sera peut-être pas exactement les meilleurs algorithmes, mais en tout cas, avec l'intelligence artificielle, on pourra sûrement recréer et permettre de compléter des œuvres dont des parties auraient disparu. C'est quelque chose qui, donc sur lequel nous, on ne travaille pas, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet, mais c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Ouais.
On reste ensemble ? On continue à parler art aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Allez, à vos crayons, on va dessiner, mais notre support, c'est une tablette, la Slate, un peu comme l'ardoise magique de vos enfants. À tout de suite.
On parle d'art aujourd'hui de 13h à 14h sur Europe 1. La France bouge, c'est la journée mondiale de l'art et il y a des Français qui innovent dans le domaine de l'art. Ils sont vos invités, Raphaël Duchemin. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, leur poser toutes vos questions. Hashtag Europe 1 pour Twitter, 3921, c'est le standard.
Il y a les inconditionnels du papier et ceux qui ne jurent que par le digital. Mais vous allez voir que parfois les deux sont réconciliables. Bonjour Jean-Luc Valero.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'ISKN et vous commercialisez la fameuse Slate, la tablette magique, hein, j'ai dit tout à l'heure, comme pour les enfants, une ardoise. Elle vient se mettre, elle est avec nous, sous la feuille de papier où l'on va dessiner ou peindre et on aura la copie digitale en même temps, tout simplement parce qu'on a un stylo sur lequel une bague est fixée qui va venir dialoguer, si j'ai bien tout compris, avec la tablette.
Exactement. Alors nous, on parle de tablette graphique 4.0
oui.
Pour une raison fort simple, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes la seule technologie au monde à permettre à un vulgaire crayon à papier, alors vous avez un stylo, mais moi j'ai un crayon à papier,
oui.
À un vulgaire crayon à papier d'avoir une dimension digitale, c'est-à-dire qu'il suffit de lui pluguer cette petite bague.
Oui.
Alors c'est un simple aimant, hein. Et cet aimant en fait va lui donner une dimension digitale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la tablette, c'est pas plus pas moins qu'un réseau de capteurs qui vient localiser en trois dimensions l'aimant.
Donc, si je prends la tablette, oui. Elle est branchée à mon téléphone, là,
oui.
Je peux dessiner.
Oui.
Je peux dessiner et je vais avoir la copie sur la tablette.
Alors, vous allez avoir la copie, évidemment, sur votre papier, parce que vous dessinez sur votre papier, et en version digitalisée. Et donc, après, derrière, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, puisque vous avez une copie digitale. Donc, vous allez pouvoir l'améliorer, vous allez pouvoir la mettre dans du cloud, la réexploiter. Vous allez pouvoir exploiter non plus une œuvre figée, mm-hmm. mais du MP4, c'est-à-dire la construction chronologique de votre dessin ou de votre œuvre. Me concernant, c'est plutôt un dessin qu'une œuvre, hein, mais pour des artistes, on peut parler d'œuvre.
Alors, on va essayer. Hein, je vous propose. Qui est-ce qui s'y colle ? Anissa ?
Alors, je dessine
vous
très bien.
Bah, c'est pas grave.
Je fais des bonhommes en bâton.
Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Au moins, tout le monde comprendra ce que c'est. On n'aura pas de questions à se poser. Enfin... On verra une fois que le résultat final sera réalisé. Vous avez eu l'idée de la Slate, à quel moment et comment ?
Alors ça date fin 2010 et notre ambition en 2010 était d'enrichir l'expérience digitale et d'en faciliter l'utilisation. C'était ça notre idée de départ. Et assez rapidement, on s'est tourné vers la création, l'art et la création liée en fait à tout ce qui est peinture, dessin, parce que c'est évidemment visuel et que ça
parle
à tout le monde.
Vous dites peinture, dessin, parce qu'on parlait des crayons ou des stylos, mais ça marche aussi avec un pinceau, on peut peindre.
Ça marche aussi avec un pinceau, après évidemment nous on a beaucoup de travail dans tout ce qui est modélisation, on va dire de la trace, du tracé, parce qu'un pinceau ça ne laisse pas la même trace qu'un crayon papier ou qu'un simple stylo bille, mais on est capable aujourd'hui de retracer à l'écran le tracé d'un pinceau, d'un stylo bille, d'un crayon à papier, d'un feutre, à partir du moment où c'est modélisé. Effectivement.
Votre public aujourd'hui, ce sont les designers, ce sont les architectes, les artistes aussi ?
Oui, alors moi j'ai tendance à dire, tous les gens qui travaillent dans la communication visuelle, je considère qu'un artiste fait de la communication visuelle, puisque par sa production, il fait passer des messages, on l'a évoqué tout à l'heure, mais aussi tout un panel de sentiments. Donc communication visuelle, et communication visuelle, ça va des architectes aux designers, en passant par des stylistes, en passant par tous les gens qui sont des créatifs, tout simplement.
Que dit notre coach de cette Slate ?
Je trouve que c'est très astucieux, c'est très malin, parce que pour une fois, on n'a pas pris un stylet, on peut prendre le stylo qu'on aime bien, donc et le rendre digital, lui donner une extension digitale. Je trouve ça très malin. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est ce time-lapse qui oui. permet de voir le temps, mais même pour de l'écriture, même pour des choses comme ça, savoir comment un auteur, le temps qu'il a mis, peut-être est-ce qu'il a raturé, est-ce qu'il est revenu en arrière, ou des choses comme ça. On peut le voir, et ça c'est une nouvelle dimension. J'ai une dernière question, ça coûte combien et c'est commercialisé quand ?
Alors c'est commercialisé depuis un petit moment, ça coûte 179 €, mais on sort nous un nouveau dispositif à la rentrée.
La version 2, c'est ça ?
Oui, la version 2. Qui va garantir là pour le coup une vraie fidélité au style. C'est-à-dire au coup de crayon.
C'est-à-dire ?
Alors, on a créé un nouveau...
Vous avez changé des choses dans la tablette ?
Exactement, au niveau hardware. Et donc, on a ce qu'on a trademarké là, récemment, du trou multipixel. Donc, en fait, on a un accès à la pression.
Ça va aider Anissa pour le prochain dessin, moi,
voilà,
je vous le dis.
On a un accès à l'information pression qui est nettement supérieur à ce qui se fait dans le commerce. Et donc, en fonction de la pression que vous allez exercer sur la feuille de papier, on va être capable de retranscrire à l'identique à l'écran. Et donc, ça, c'est prévu pour septembre.
Ah, oui. Il y a de plus en plus de technologies, finalement, Elisabeth, hein, dans notre manière de faire de l'art, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Vous avez trouvé pas mal d'intelligence artificielle, notamment.
Alors, on a l'intelligence artificielle, il y a un peu partout. Et d'ailleurs, il y a des grosses entreprises, vous en parliez tout à l'heure, hein, dédiées à l'art. Vous avez l'américaine Sotheby's ou Artsy, qui ont acheté des startups qui travaillent sur l'intelligence artificielle parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ne peuvent plus faire sans. D'ailleurs, ça en 2016, vous vous en souvenez sûrement, c'était là, il y avait eu un nouveau Rembrandt. Là aussi, il y avait eu le GAN, hein, cet algorithme qui créait un nouvel exemple de ces images, qui avait produit un portrait copiant très précisément le style du maître avec un niveau de détail vraiment impressionnant. Donc ce sont des machines qui créent, qui copient et qui créent finalement une nouvelle forme d'art.
Une nouvelle forme d'art, et on en a une de nouvelle forme d'art avec le dessin d'Anissa.
J'ai un enfant de 5 ans qui avait ça.
Voilà, une révélation peut-être en direct sur Europe 1.
On prendra comme ambassadeur.
Voilà. Et donc, on a la feuille papier, et vous voyez, si vous nous suivez sur Europe1.fr, sur l'écran en dessous, sur l'écran du smartphone, il y a la copie exacte, conforme du dessin effectué par notre artiste Anissa. On reste ensemble, on continue à parler d'art aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous aussi, bien sûr, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. On vous attend, venez poser vos questions à nos invités.
La France bouge sur Europe 1, tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, on parle d'art. C'est la journée mondiale de l'art aujourd'hui. Et nous découvrons ces Français qui innovent dans le domaine de l'art. Si vous avez des questions à leur poser, si vous voulez partager avec nous des expériences originales dans le domaine de l'art que vous avez pu vivre, venez dès maintenant sur Twitter, hashtag Europe 1. Et au 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, Raphaël.
Elisabeth Assayag est à mes côtés comme chaque jour. Riyad Boulanoir est notre coach aujourd'hui. Nos invités, Jean Vergès, historien d'art et cofondateur de Ouma, Universal Museum of Art, le premier musée virtuel. Gauthier Vernier est là aussi cofondateur du collectif d'artistes Obvious. Et Jean-Luc Valero, PDG de ISKN, qui commercialise la Slate, cette ardoise numérique unique qui permet de dessiner avec n'importe quel crayon, n'importe quel pinceau, n'importe quel stylo sur du papier posé sur la tablette. Et ça reproduit à l'identique en digital. Je voudrais qu'on s'arrête un moment, Elisabeth, sur l'art en France, les musées, la culture en France, on en est où ?
Ben alors d'abord, on adore aller au musée en France, puisqu'on a eu une fréquentation record, donc musée physiquement, on se déplace. En 2017, on a 2200 musées en France, donc plus de 1000 qui sont ouverts au public. Donc il y a eu près de 60 millions de visites dans les musées en France, alors après une baisse de la fréquentation, après les attentats de Paris. Parmi les visites, 63% de ces visites ont lieu dans des musées d'art, 18% d'entre elles dans des musées d'histoire, 10% dans des musées de civilisation et 8% dans les musées de nature, sciences et techniques. Et à noter, tous ces musées où l'on se déplace physiquement se sont mis à l'heure du numérique et ont tous envisagé des solutions pour pouvoir combiner les deux.
Jean Vergès, justement, vous avez de plus en plus de personnes qui viennent vers le musée virtuel. Je crois que c'est 4% de la population mondiale qui a accès au musée. Donc, c'est dire effectivement l'importance que peuvent avoir ces musées virtuels aujourd'hui. Vous avez combien de visiteurs ou de visiteurs récurrents ?
Alors aujourd'hui, pour chaque exposition, on a entre 50 000 et 200 000 visiteurs. Sachant que pour vous donner un ordre de comparaison, les expositions qui ont fait les records de fréquentation en France, c'est environ 800 000. C'est le record. La moyenne se situe beaucoup plus bas. Je ne suis pas en train de comparer la qualité de la visite d'une vraie exposition avec la qualité de la visite d'une exposition virtuelle.
Mais c'est un complément.
Il y a un très gros audimat et une très grande fréquentation pour ce genre de contenu.
Et alors, vous êtes en train de lever des fonds, je crois ?
Tout à fait.
On est
en train de finir un tour de table pour être capable, avant tout, de créer plus d'expositions. C'est-à-dire être capable de générer plus de trafic, plus d'intérêt, créer une plus grande communauté. On lève des fonds aussi pour être capable de promouvoir Ouma dans les écoles et créer des contenus qui soient plus adaptés pour les usages pédagogiques. Et on, crée, on lève des fonds aussi pour être capable de diffuser Ouma dans des lieux qu'on considère comme stratégiques.
Les hôpitaux.
Les écoles, les lieux de transport, les gares, les aéroports, les compagnies aériennes, les chaînes d'hôtels.
Les
maisons de retraite, effectivement.
Il vous manque encore beaucoup d'argent ?
Non, on lève 1 300 000 euros avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations et d'autres investisseurs privés. Et aujourd'hui, on est quasiment arrivé à la fin de la levée.
Et puis, vous avez quelques belles collaborations en perspective aussi avec, avec le MoMA notamment, avec le Metz, avec le Guggenheim.
Dans un futur encore plus proche, on est en train de lancer des projets avec le Musée d'Orsay, le Centre Pompidou et ensuite à venir dans les prochains musées que nous souhaitons accueillir sur la plateforme, effectivement figurent ces grands noms des musées internationaux.
On parlait de l'intelligence artificielle, on parlait des algorithmes tout à l'heure. Vous nous disiez justement, Gauthier Vernier, qu'il y avait une possibilité de compléter effectivement et que ce serait peut-être un des développements. Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi ? Vous avez des séries, hein. On a dit 4 mois de travail, c'est pour une série.
Oui.
C'est combien de tableau, une série ?
Alors, en fait, quand on décide de travailler sur quelque chose, on travaille sur un sujet avant de travailler seulement sur une œuvre.
Donc et là, ce sont les estampes japonaises, c'est ça ?
Voilà, la prochaine, ce sera les estampes japonaises. Là, c'était les portraits classiques. Et en général, une série, c'est une dizaine d'œuvres. Donc nous, on a décidé d'en faire 11 pour la première et il y en aura 22 pour la deuxième. Puisqu'on va traiter de sujets distincts.
Question à Jean-Luc Valero, PDG de ISKN pour cette slate. Vous nous parliez de la version 2. Elle va s'adresser à qui ? Vous élargissez au fur et à mesure ou vous essayez de faire des produits qui sont vraiment destinés à des populations très différentes aujourd'hui ?
Alors, en fait, on va juste embarquer une fonctionnalité qui est une fonctionnalité juste nécessaire pour adresser des vrais artistes, des gens dont c'est le métier, j'ai envie de dire. Des gens pour lesquels estamper de la craie avec plus ou moins de pression, ça fait une différence versus... donc là, on va vraiment dévoiler à la rentrée un produit avec lequel, j'ai envie de dire, on va enfin accéder au monde artistique. Aujourd'hui, on était plutôt sur quelque chose qui était très consumer, très grand public.
Là, on passe une étape.
On passe une étape et en plus de ça, on a aussi dans l'idée de construire une espèce de hub, une plateforme, une galerie figitale. Alors pas digitale, figitale. Pourquoi figitale ? Puisqu'aujourd'hui, une des grosses problématiques des artistes, ce sont les droits d'auteur. Et l'idée, c'est que ces droits d'auteur-là, ils les conservent. Et donc, on travaille avec une start-up qui s'appelle Bibusiness, qui est basée à Grenoble. Une autre entreprise.
Parce que vous êtes à Grenoble aussi.
On est à Grenoble.
Vous êtes une cinquantaine d'ailleurs.
Exactement. Et Paragon ID qui fait de l'authentification pour faire en sorte que ces artistes pourront vendre leurs toiles, donc l'original, et qu'on ait des copies digitales qui soient certifiées et certifiables. Donc voilà.
On a un petit message, je crois, et ce sera le message de la fin d'ailleurs.
Eh bien, c'est CoteCote27 sur Twitter qui nous écrit et qui nous dit « Intéressant ce concept de la copie sur portable d'une œuvre dessinée sur feuille. En revanche, je suis plus circonspect à propos de la substitution d'artistes humains par des robots. Quel intérêt à part nous remplacer ?»
Quel intérêt peut-être explorer de nouvelles aventures, de nouveaux champs ?
Exactement, et puis comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un remplacement, c'est vraiment un nouvel outil qui est à la disposition des artistes. Et du coup, je ne pense pas que l'humain sera remplacé dans ce process.
Oui, on sera toujours au point de départ, comme vous l'avez précisé. Merci à tous les trois d'être venus parler art aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On reste ensemble dans 2 minutes. Une entreprise fondée en 1994. Elle n'a pas cessé de croître depuis ses débuts. C'est Paprec et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1. Raphaël Duchemin, comme chaque jour, vous nous faites découvrir l'entreprise française qui va bien. Et aujourd'hui, on parle recyclage.
Oui, cette entreprise, eh bien, c'est Paprec. Bonjour Jean-Louis Petit-Huguenin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Paprec. Tout commence, je l'ai dit tout à l'heure, en 1994. Vous quittez Veolia, la Générale des Eaux, et vous achetez une petite entreprise spécialisée dans le tri des papiers et des cartons en Seine-Saint-Denis. Pourquoi ? Vous avez senti qu'il se passait quelque chose ?
Oui, exactement. C'est-à-dire que j'avais une idée qui consistait à penser que l'écologie allait devenir fondamentale. Je trouvais que mon groupe n'y croyait pas suffisamment. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas assez d'avance et que le recyclage allait devenir la solution du futur. Parce qu'à la générale des eaux, grosso modo, l'enfouissement, l'incinération, tout ça on connaissait par cœur, recyclage un peu moins. Je me suis dit, il y a la possibilité de se mettre à mon compte. Donc la première usine, oui, 45 personnes.
Ouais, parce que l'écologie n'est pas du tout une préoccupation majeure à l'époque.
Je vais vous raconter une anecdote, mais ça c'était la Lyonnaise des eaux. J'avais un camarade de promo à la Lyonnaise des eaux, patron de la stratégie, et il me dit, qu'est-ce que tu te mets à ton compte dans un métier sans aucun avenir ?
Bon.
Depuis, il s'est fait virer comme directeur de la stratégie.
L'avenir lui a donné tort, effectivement. Alors, au départ, vous êtes sur le papier, sur le carton. Oui. Petit à petit, vous commencez à recycler
de nouvelles matières. Tout ce qui peut se recycler, le plastique, les matériaux composites, le bois, les métaux, les ferrailles.
Les déchets du bâtiment, la ferraille.
Ouais, c'est ça, voilà.
Et ensuite, le tri en collecte sélective.
Oui,
bref, tout. Tout.
Oui, c'est exactement le positionnement de mon entreprise. C'est simple, c'est la loi de Ségolène Royal. Alors, je l'ai démarré un peu avant la loi en question, mais en un, on recycle. Et en deux, ben, on incinère, on fait de l'énergie. Et puis tout à la fin, ben, on va mettre dans un centre d'enfouissement technique, on dit nous, dans une décharge, quoi. Ce qu'on n'a pas su recycler ou ce qu'on n'a pas su incinérer.
Mais au départ, vous êtes une petite PME, 40 personnes,
oui.
Et puis à chaque fois, à chaque fois que vous devez ouvrir une nouvelle activité, il faut grossir, 25% à chaque fois. Aujourd'hui, vous êtes
9 000 salariés, oui. 1,5 milliard de chiffre d'affaires, en ayant démarré 45 personnes, oui.
PME, puis ETI, puis grand groupe aujourd'hui.
On a investi 1,5 milliard quand même d'euros en France, dans un réseau d'usines, plus de 100 usines en France, pour...
ce sont des nouveaux métiers à chaque fois. On ne trie pas de la même manière.
C'est des nouveaux métiers absolument passionnants, très techniques. Contrairement à l'idée, c'est 25% de cadres et d'agents de maîtrise. Alors, le salaire moyen d'un ouvrier, je ne sais pas, près que 2450. Donc, j'attends pas les nouvelles de ce soir de Macron en disant s'il augmente le SMIC, je suis ruiné. Non, on a presque que des travailleurs qualifiés. 92% de travailleurs qualifiés.
En 2017, vous rachetez la Coved ?
Oui.
Ça aussi, c'est quelque chose qui vous a permis de grossir encore ?
Alors, ça fait partie, on a racheté régulièrement. Ma spécialité, c'est de prendre des petites affaires. Alors, la Coven, c'était une grande affaire, mais c'est de prendre des petites affaires et de leur permettre de franchir la dimension industrielle. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle frontière qui s'ouvre, c'est des nouvelles technologies qui arrivent et c'est extrêmement intéressant parce que, et alors là, si vous qui aimez la France, comme moi, eh bien, la France est au meilleur niveau de ce qui se passe dans le monde. On n'est pas du tout derrière les Allemands, pas du tout derrière les Japonais ou les Américains. On est au meilleur niveau de ce qui se fait dans le monde.
Que dit notre coach Riyad de cette formidable aventure ?
Moi, je dis bravo. Déjà, je vous demande, est-ce que vous avez des concurrents ?
Oui, j'ai des concurrents. J'ai bien sûr les deux grands groupes français qui sont d'un côté Cita, de l'autre Veolia. Et puis, après, j'ai un certain nombre de concurrents locaux. Mais c'est vrai qu'en grands nationaux, je suis le seul qui a réussi à me rapprocher des autres.
Et qu'est-ce qu'on ne recycle pas, là, maintenant ? Parce que vous me parlez d'une partie. Alors, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à recycler, qu'il ne faut surtout pas qu'on achète ?
Alors, que vous allez peut-être recycler demain, qui sait ?
C'est ça, on passe notre temps parce que c'est une espèce de course contre la montre. Si vous m'aviez posé la question il y a 25 ans, votre bouteille en plastique, on ne savait pas la recycler. Puis après, vous avez appris que votre bouteille plastique, on l'a recyclée en polaire. Je ne sais pas si ça vous redit des choses. Et puis maintenant, votre bouteille plastique, on vous la recycle en bouteille plastique. Donc là, on a fait toute la boucle. Si, par exemple, si je prends toujours l'exemple des plastiques, il y a des plastiques multicouches qui sont très compliqué à recycler. Pour être honnête, il vaut mieux chercher de la chaleur avec de... Mais peut-être qu'un jour on saura le faire, sachant aussi, pour pas aller dans le plastique bashing, que ces plastiques, ils ont quand même un atout, ils sont extrêmement légers, et donc pour la production de CO2, il faut faire attention, hein. Quand on regarde tout le cycle, des fois c'est plus complexe qu'on imagine.
Jean-Luc Petit-Guenin, vous êtes aussi précurseur dans d'autres domaines, j'ai envie de dire, parce qu'en 2015, vous êtes la première entreprise à faire appel à des obligations vertes.
Oui, 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 on est le plus gros émetteur de green bond en France. C'est, si vous voulez, c'est absolument passionnant. C'est...
Ça aussi, c'est un déclic ?
Non, mais j'allais simplifier pour votre auditeur. Vous vous lancez à votre compte. Moi, je ne suis pas fils de milliardaire. Je suis fils d'un prof de maths et d'un colonel, vous voyez. Donc, dans la famille, il n'y a pas d'argent. Hein. Et donc... comment est-ce qu'on se finance? On se finance avec le marché, on va en bourse, etc. Et là, maintenant, on a le fait de pouvoir emprunter sur le marché obligataire. Et dans mon cas, comme ça sert à la transition écologique, on appelle ça des green bonds, des obligations vertes. Et on a eu un succès formidable. On est sur souscrit 4 fois. Et on a démontré qu'il y avait un intérêt pour les financiers de financer visiblement cette transition qui arrivait ou ces nouveaux métiers.
Et vous êtes la preuve qu'il faut croire en ces idées. Vous avez aussi fait le choix, je tiens à le signaler, du transport par voie fluviale. Un tiers de vos déchets circulent aujourd'hui par voie fluviale et ce sera, dites-vous, la moitié d'ici 2050. C'est pas PREC, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Faire des économies en regroupant tous vos abonnements, oui, c'est possible. La solution, c'est Idyl. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour.
On a tous des abonnements, téléphone, électricité, assurance, oh oui. Et on en change rarement. On accepte toutes les hausses de tarifs et le temps passe. Elisabeth, vous avez la solution et elle s'appelle Idyl.
Mais oui, hein, plus d'excuses hein, pour continuer à payer trop cher nos abonnements. Hein. La facture moyenne, par exemple, pour un forfait de téléphone, n'a baissé que de 30% depuis 2011. Et au même moment, le prix moyen d'un nouveau forfait, quand vous rentrez dans un magasin pour acheter un nouveau forfait avec un téléphone, a été divisé par 3. Cette start-up Idyl, qui a à peine une année, identifie pour vous les meilleurs contrats, que ce soit téléphone, internet, assurance. Elle gère tous les changements de fournisseurs à votre place. Elle est 100% gratuite. Et c'est une économie pas négligeable puisque vous économisez en moyenne 315 euros par an.
Ah oui, c'est toujours mieux dans notre poche. Bonjour Edouard Alexandre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Idyl. Comment est-ce que vous est venue cette idée ?
Alors, on s'est vraiment fait le constat que, comme vous dites, les abonnements sont de plus en plus présents dans nos vies et qu'il est prévu que ça continue dans les années à venir et que le nombre d'abonnements par tête ne va faire qu'augmenter. Et deuxièmement, que pour les consommateurs, c'est souvent très galère les abonnements. Les procédures de résiliation sont souvent très compliquées, donc on se résigne à payer trop cher. On ne sait pas trop combien on paye tous les mois, surtout qu'on en a plein, on peut vite être perdu. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait faire une plateforme pour permettre un peu de résoudre tous ces problèmes à la fois.
Donc vous concentrez tous les abonnements. Comment ça marche ? Moi, je dois vous faire part de tous mes contrats en cours. Voilà. Et ensuite, vous vous occupez de tout ?
Alors aujourd'hui, exactement, quand on s'inscrit sur le site, comme gratuitement, comme vous l'avez dit, on recense du coup tous ces abonnements. Et à partir de là, on va permettre de rendre de la valeur sur 3 axes. Donc premièrement, en vous permettant de tout suivre depuis une seule plateforme, de retrouver tout ce qui est important, donc vos numéros de contrat, vos factures, même le contact du service client.
Formidable.
On va vous donner des notifications et des alertes à chaque fois que vous avez besoin d'être notifié. Donc par exemple, quand un abonnement arrive à un réengagement, quand on arrive à trouver une offre qui est moins chère que l'une que celle que vous avez. Et enfin et surtout, ce qu'on fait, c'est d'automatiser toutes les démarches administratives liées à ces abonnements. Donc on permet de résilier en quelques clics le moindre de ces comptes, même si ça demande un envoi de lettres recommandées. On permet aussi du coup de mettre en pause certains services pour éviter de les payer pendant ses vacances par exemple, ou pendant une période où on n'a pas forcément envie de l'utiliser.
La salle de sport est inclue dedans aussi ?
La salle de sport, ouais, selon les partenaires, oui, c'est inclus, mais on
quand
le fait,
on en
coup.
A une
et on fait du coup pareil pour toutes les démarches de souscription à de nouveaux services et même les démarches de changement. Donc comme vous l'avez dit, par exemple, les forfaits mobiles, c'est un cas qui est assez flagrant parce que les gens se résignent à payer trop cher par flemme de toutes les démarches administratives. Et nous, on pense que c'est pas normal et qu'on devrait pouvoir changer de téléphone, de forfait mobile, qu'on n'est pas sous engagement, aussi simplement qu'on le fait en s'abonnant à Netflix ou autre. Donc du coup, on s'est dit que toutes ces démarches-là, il faut arriver à les réduire et les automatiser pour que vraiment, en quelques clics, on n'ait plus trop d'excuses, comme vous dites, pour continuer à payer trop cher nos services.
Alors, c'est génial. Vous nous faites gagner de l'argent. C'est gratuit. Et vous vous rémunérez comment ?
Alors, une bonne question. Aujourd'hui, notre stratégie dans le développement, c'est de se dire qu'on préfère faire payer les entreprises que les utilisateurs. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de créer une assez grosse communauté autour d'Idyl, d'arriver à rassembler et à fédérer un maximum de personnes. Et à partir de là, de faire payer les entreprises pour être référencées sur notre site. Du coup, à la même manière qu'un comparateur de services fonctionne, on prendrait du coup des commissions sur les opérateurs pour pouvoir avoir accès à diffuser des offres sur notre plateforme.
Riyad ?
Ben, aujourd'hui, vous vivez de quoi alors ?
Pour l'instant, on vit. Alors, on a levé un tout petit peu d'argent il y a 5 mois qu'on a créé l'entreprise. Et on vit de ça pour le moment. On vit aussi un peu de donations que des gens nous font sur certains services. Donc, c'est quelque chose qui est assez super dans notre projet. Ouais. C'est qu'on se rend compte que parfois, on rend le service à des personnes.
Et, ouais, c'est génial, votre.
Qui sont vraiment hyper satisfaites de voir enfin résilier un service qui les traînait depuis longtemps.
C'est vraiment génial. Ouais.
Et on peut rapidement voir les économies qu'on fait. Donc, on a aussi pas mal de donations de personnes sur notre projet. Et oui, à terme, on va essayer peut-être de lever de l'argent pour continuer à se développer sans toucher de
comment vous voient les fournisseurs quand vous dites je vais mettre ton service en pause pendant les vacances, comment ils vous voient finalement? Parce que d'un côté ils vous voient comme une source potentielle, mais de l'autre côté ils voient aussi comme quelqu'un qui va consommer juste malin et justement pas se laisser avoir par la date de reconduction tacite du contrat, etc.
C'est sûr, et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre vision des partenaires avec qui on travaille, il y a vraiment deux acteurs différents. Il y a les acteurs un peu traditionnels qui en effet ils ont encore des procédures de résiliation très lourdes avec des lettres recommandées par exemple demandées et des nouvelles personnes, des nouveaux entrants sur le marché qui ont compris que c'est pas en mettant des barrières à la sortie qu'on va garder les utilisateurs, mais c'est en proposant des bons services avec des facilités à l'inscription et à la résiliation.
Et la solution s'appelle Idyl. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Riyad qui était notre coach. Nous on se retrouve demain, parlerons de la voix.
Dans un instant à 14h sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat et ses récits étonnants. Quelle histoire vous allez nous raconter aujourd'hui, Christophe ?
Bonjour Anissa.
Bonjour Christophe.
Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Paul François, cet agriculteur des Charentes qui vient de gagner enfin son procès contre Monsanto. Il avait été intoxiqué par un herbicide de Monsanto.
Merci Christophe. À tout de suite donc pour découvrir le combat de Paul François contre Monsanto.